Il est sans doute préférable d'être simple et de vous dire combien je suis content d'avoir réussi à vous retrouver. On m'avait prévenu que Bruxelles était une maîtresse exigeante, qu'elle ne s'offrait pas toujours la première fois, mais là, j'avoue que c'est allé plus loin que ce que j'avais imaginé. C'est un honneur de m'exprimer devant vous, tout simplement parce que je sais le travail entrepris par ce collège depuis plusieurs années, et je sais aussi la qualité des intervenants que vous allez recevoir cette année, et je me sens bien modeste en comparaison de celui que vous avez reçu il y a 2 semaines, qui est mon propre directeur de thèse, et de ceux que vous allez recevoir dans le reste de l'année. Je ne suis pas certain que je suis le mieux placé pour parler du socialisme. Et cependant, il n'est pas impossible que je sois le moins mal placé. Il se trouve en effet qu'une des notions sur laquelle j'ai réfléchi dans les dernières années est la notion de production. Non pas qu'elle soit le concept central sur lequel j'ai cherché à réfléchir, mais il s'est trouvé, dans ce cheminement sur l'itinéraire de la valeur dont Martin a parlé, qu'il a été nécessaire d'interroger la catégorie de production et de chercher à discerner si elle est une catégorie spécifiquement moderne ou pas. Aujourd'hui, je sais que c'est une des séances du mardi, et Martin m'a prévenu que les séances du mardi avaient plus spécifiquement à voir sur le lien entre le socialisme et la croissance écologique. Je vais donc essayer de parler de ce thème. Mais pour commencer, je voudrais dire qu'il me semble que l'une des caractéristiques du socialisme à l'échelle des 2 derniers siècles a été d'accorder une immense importance au concept de production. Une importance telle, d'ailleurs, qu'il est sans doute permis de voir dans l'œuvre des pionniers socialistes, et plus spécifiquement sans doute dans l'œuvre de Karl Marx, les principales essais de conceptualisation de ce que c'est que la production pour les modernes. Dans la première partie du propos que je vais tenir aujourd'hui, je vais essayer de vous convaincre qu'il existe une différence entre les rapports de production, familiers à tous ceux qui ont lu Marx, et les rapports à la production, qui est un peu la nouveauté que je voudrais apporter, et qui va nous permettre de comprendre qu'avant même de se poser la question de savoir dans quel rapport de production une société évolue, il convient de se poser la question de savoir si la société entretient un rapport à la production en elle-même. Et si oui, de quelle nature ? Et en fait, c'est à partir de ce thème que je vais m'efforcer de parler socialisme. Vous allez comprendre pourquoi, dans la suite de ce propos. Une fois que nous aurons parlé de la crise du socialisme, je basculerai sur la question de la croissance de l'écologie politique, afin de montrer en quoi elle constitue, du point de vue politique, quelque chose de l'ordre d'une négation. Et dans la dernière partie de mon propos, j'essaierai de proposer une piste pour le socialisme sur la pensée de la production qui pourrait correspondre à notre époque et qui pourrait lui donner les moyens de lever cette aporie contre laquelle se heurte l'écologie politique. Donc, voilà à peu près le cheminement que nous allons entreprendre. Première partie qui va être, je le crains, un peu théorique, pas abstraite, mais un peu théorique, puisqu'il va s'agir d'entrer dans ce concept de rapport, non pas de production, mais de rapport à la production. Deuxième temps, montrer en quoi cette réflexion nous permet de comprendre la crise actuelle du socialisme. Et troisième temps, essayer de se réapproprier une pensée de la production, qui a tout de même, sur la longue époque, toujours été la spécialité de la pensée socialiste, essayer de se réapproprier une pensée de la production pour penser le moment présent, et donc proposer, c'est naturel, une autre manière de penser le socialisme. Bien, alors entrons dans le cœur du sujet, et peut-être faut-il commencer par souligner à quel point le concept de production est central dans l'œuvre des théoriciens du socialisme. Alors, je ne vais pas, d'autant que nous sommes un peu pris par le temps, du fait de mon retard, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, et je vais partir du principe que, pour l'essentiel, cette importance spécifique accordée à la production par le socialisme est une chose qui vous convainc spontanément parce que vous avez une connaissance des propositions socialistes du XIXe siècle. Tout le vocabulaire de la production, en philosophie, ne vient pas du socialisme. Il est question de production dans la somme théologique quelques siècles avant Karl Marx. Et cependant, dès qu'il est question de production, et de toutes ces locutions qui ont à voir avec la production, rapport de production, mode de production, force de production, c'est toujours à des penseurs proches du socialisme que nous pensons. La question est ensuite de comprendre pourquoi. Pour le comprendre, je vais vous proposer d'établir une distinction entre trois types de volonté. Il y aura d'abord la volonté de constance, ensuite la volonté d'abondance, et pour finir, la volonté de croissance. J'aimerais, à travers ces trois volontés, essayer de comprendre le cœur d'une des notions clés de l'idée socialiste depuis ses formulations les plus précoces, c'est-à-dire l'idée de production. Bien. Pour établir la distinction entre les trois volontés, je vais vous inviter à deux dépaysements, l'un avec des sociétés très proches de nous, les sociétés modernes jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et l'autre dépaysement avec des sociétés éloignées, qui sont ces sociétés dites primitives ou premières, ces sociétés étudiées par l'anthropologie et l'ethnologie au long du XXe siècle. Je vais vous inviter à ces deux dépaysements afin de faire apparaître une spécificité historique qui est la spécificité du rapport à la production de notre époque, en comparaison notamment de l'époque de Marx. Je crois que c'est là que la chose se joue, parce qu'un des axes du propos que je tiens aujourd'hui consiste à vous convaincre que notre rapport à la production n'étant plus le même que celui qui était en place au moment où se formule le noyau de l'idée socialiste, l'idée de production s'étant déplacée, le rapport à la production s'étant déplacé, elle appelle en effet une autre manière de penser la transformation de la société auquel le socialisme a donné son nom. Entrons dans le détail des dépaysements. Peut-être le plus simple est-il de repartir des années 30 et d'un penseur que nous connaissons tous, qui n'a d'ailleurs pas une réputation spécifiquement socialiste, et qui est John Maynard Keynes. En 1930, alors que l'économie mondiale venait de pénétrer dans ce qui demeure à ce jour, je crois, la principale crise de son histoire moderne, Keynes avait jugé bon de formuler dans un petit essai ses perspectives sur l'avenir à long terme de l'économie mondiale. Il avait intitulé cet essai « Perspectives économiques pour nos petits-enfants ». C'est un texte qui mérite d'être rouvert 80 ans plus tard. À cette époque, les années 30, alors qu'une frange considérable des élites redoute que la crise ne vienne signer la fin du modèle capitaliste, face au modèle communiste qui avait émergé une décennie plus tôt en URSS, c'est selon une autre vision que celle de la dépression économique que Keynes perçoit le moment économique de son époque. Nous souffrons, écrit-il, non des rhumatismes liés à la vieillesse, mais de douleurs de croissance résultant de changements trop rapides. Et contre le pessimisme ambiant, il ajoute, et là, quelle surprise, il ajoute, je prédirais volontiers que d'ici 100 ans, le niveau de vie des pays les plus avancés sera de 4 à 8 fois supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Il n'y aurait là rien de surprenant, même à la lumière de nos connaissances actuelles. Il ne serait pas non plus insensé d'envisager la possibilité d'un progrès bien supérieur encore. 80 ans plus tard, évidemment, à la lecture de ce texte, la prévision se révèle juste. Le niveau de vie a augmenté selon un ordre de grandeur proche de celui imaginé par Keynes, et son optique est devenue la nôtre. Si bien qu'alors même que le monde traverse ces jours-ci une crise économique de grande ampleur, nul ne doute sérieusement qu'après ces douleurs de croissance résultant de changements trop rapides, le développement économique repartira. D'un certain point de vue, en lisant cet extrait, nous ne pouvons nous empêcher de voir en Keynes notre contemporain. Et cependant, le même essai contient certaines autres vues qui font signe, à l'inverse, vers la divergence entre deux visions du monde, la nôtre et celle de Keynes. Il faut expliciter cette divergence. De la perspective du décuplement du niveau de vie, Keynes tire une conclusion où se révèle tout ce qui, du point de vue de ses représentations, nous sépare de lui. À propos du décuplement envisagé, il écrit ainsi. À long terme, tout cela signifie que l'humanité est en train de résoudre le problème économique. Et il ajoute, nous pouvons atteindre rapidement, peut-être plus rapidement que nous n'en avons conscience, un point où les besoins seront satisfaits, au sens où nous préférerons consacrer nos énergies à des buts non économiques. Cela signifie que le problème économique n'est pas, si nous nous tournons vers le futur, le problème permanent de l'espèce humaine. Ainsi, alors que le problème économique, la lutte pour la subsistance, a toujours été jusqu'à présent le problème primordial et le plus pressant de l'espèce humaine, c'est Keynes qui parle, eh bien, pour la première fois depuis sa création, l'homme sera confronté à son problème véritable et permanent, quel usage faire de sa liberté une fois dégagé de l'emprise des préoccupations économiques. Difficile alors de voir en Keynes notre contemporain. Pour le dire autrement, il croit à l'existence d'un point d'abondance et nous n'y croyons pas. Aussi surprenante que puisse nous sembler cette vision de Keynes, il faut se faire à l'idée qu'elle est commune à tous les économistes et penseurs jusqu'à lui. Il y aura, au bout de l'histoire, un moment terminal d'abondance. Cette représentation d'une fin de l'histoire, mais d'une fin de l'histoire économique, je crois que nous en sommes orphelins. En dépit de taux de croissance supérieurs à ceux imaginés par Keynes, qui parmi nous croit à un temps où la croissance économique cessera, où l'humanité consacrera pour l'essentiel ses énergies à des buts non économiques? Qui y croit? Qui parmi nous accorde quelque crédit à cette sortie, j'ouvre les guillemets, hors du tunnel de la nécessité économique, préfigurée par Keynes? Le niveau de vie a pu être décuplé, plus que décuplé, depuis les années 1930. Nous restons orientés vers la croissance. Nous imaginons qu'un autre décuplement du niveau de vie entre notre génération et celle de nos petits-enfants ne mènera pas à un quelconque point d'abondance. On pourrait multiplier par 10 le niveau de vie, nous n'imaginerions pas pour autant que le processus économique s'arrêterait. Où qu'on regarde, la volonté de croissance arrive en première place dès qu'il est question de notre rapport à l'avenir. Aussi bien par les citoyens, pour qui l'objectif principal de leur pays doit être la croissance économique, je me fie là au World Value Surveys entrepris régulièrement depuis 30 ans, et c'est aussi vrai des leaders d'un monde désormais globalisé qui, lors des 3 sommets organisés à la suite de la crise financière, placent la croissance au premier rang de leur volonté publique. Les communiqués sont clairs. Voilà notre premier problème. Voilà notre premier dépaysement. Alors que toutes les générations qui nous ont précédés, semble-t-il, depuis l'introduction de l'économie politique classique à la fin du XVIIIe siècle, toutes ces générations donc, depuis la révolution industrielle, vivaient dans l'idée que l'accumulation économique déboucherait dans un état d'abondance. Après bien d'autres, c'est ce mot, l'abondance, que John Maynard Keynes choisit. Eh bien, les générations situées après la Deuxième Guerre mondiale considèrent que l'orientation vers la croissance est un état durable de l'humanité. Si l'on y songe, il est clair que l'opulence, que j'utilise par différence avec l'abondance, que l'opulence atteinte depuis plusieurs décennies par les sociétés les plus avancées dépasse les espérances d'abondance les plus ambitieuses formulée par Adam Smith ou Karl Marx. Au stade de dépassement de la rareté atteint par nos sociétés, ces deux penseurs, autant sans doute que John Maynard Keynes, regarderaient avec un vif étonnement la poursuite de l'orientation collective de nos sociétés vers la croissance. Avec un vif étonnement, mais il y a fort à parier, cependant, qu'ils ne se contenteraient pas de régler le problème en décrétant que cette orientation vers la croissance est irrationnelle, qu'il est urgent d'arrêter la croissance. Non. Le défi intellectuel qu'ils s'efforceraient de relever serait de comprendre ce qui a changé dans les représentations, et pourquoi pas notamment depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a changé donc au sein des sociétés modernes, pour que les sociétés modernes cessent de vouloir la croissance au nom de l'abondance, pour vouloir la croissance pour elle-même. Qu'est-ce qui a changé? Comment est-on passé de la volonté d'abondance à la volonté de croissance? Au surplus, il se trouve que la prépondérance de l'orientation des sociétés contemporaines vers la croissance ne cesse de s'accentuer. Cette accentuation vers une croissance perpétuelle est fort bien ramassée, je crois, à notre époque, par la montée en puissance globale de l'impératif de croissance soutenable, développement durable, si vous préférez l'appeler ainsi. Si l'on y songe, cette qualification de la croissance, selon la durée, révèle une représentation collective, la nôtre, selon laquelle il n'y a pas dans l'histoire de rendez-vous avec la fin de la croissance. La croissance est durable, et nous veillons à ce qu'elle le soit. Cette qualification révèle que, d'après nous, non seulement nous voulons la croissance, mais les générations futures, dont le discours public est saturé, voudront elles aussi, à leur tour, continuer à croître. Que nous devons en conséquence laisser en héritage un monde dont aucune potentialité ne serait corrompue, un monde rendant possible par ceux qui nous suivront la production de leur propre histoire. Première question donc, il s'agira de comprendre comment on est passé d'un certain rapport à la production, que j'appelle la volonté d'abondance, et qui a, par différence avec la volonté de croissance, la propriété de viser un point final d'abondance et d'être structuré par l'existence de ce moment terminal. Après ce premier dépaysement, je vous en propose un second. Ce second dépaysement est, je crois, beaucoup plus radical puisqu'il nous amène à fréquenter la société dite première. Société qu'on appelait autrefois primitive, mais auquel toute l'ethnologie et l'anthropologie du XXe siècle a donné, non pas ses lettres de noblesse, mais en tout cas nous a permis de comprendre que s'y jouait quelque chose d'un tout autre ordre qu'un état primitif de l'humanité. D'où le basculement sans doute entre l'idée de primitivité et l'idée de première. Alors, pour donner une idée de la différence entre les sociétés premières, que Lévi-Strauss appelle sans poterie, ni tissage, ni agriculture, ni animaux domestiques, et les sociétés modernes avec ce qu'il appelle le machinisme, l'énergie thermique, l'énergie électrique et maintenant l'énergie nucléaire, Lévi-Strauss a formulé une distinction qui, je crois, est extrêmement parlante, elle est d'ailleurs devenue classique, entre les sociétés froides et les sociétés chaudes. Je le cite. Les sociétés qu'étudie l'ethnologue, comparées à nos grandes sociétés modernes, sont un peu comme des sociétés froides, par rapport à des sociétés chaudes, comme des horloges par rapport à des machines à vapeur. Ce sont des sociétés qui produisent extrêmement peu de désordre, ce que les physiciens appellent entropie, et qui ont une tendance à se maintenir indéfiniment dans leur état initial. Ce qui explique d'ailleurs qu'elles nous apparaissent sans histoire et sans progrès. Il écrit encore « Il ne faudrait pas distinguer les sociétés sans histoire et des sociétés à histoire. En fait, toutes les sociétés humaines ont une histoire, également longue pour chacune, puisque cette histoire remonte aux origines de l'espèce. Mais tandis que les sociétés dites primitives baignent dans un fluide historique, auquel elle s'efforce de demeurer imperméable. Nos sociétés intériorisent l'histoire pour en faire le moteur de leur développement. Et il conclut, chacune de ces sociétés considère que son but essentiel, sa fin dernière, est de persévérer dans son être, de continuer tel que les ancêtres l'ont institué, et pour la seule raison, d'ailleurs, que les ancêtres l'ont fait ainsi. Il n'y a pas besoin d'autre justification. Nous avons toujours fait de cette façon-là. C'est la réponse que nous recevons immanquablement quand nous demandons à un informateur la raison de telle coutume ou de telle institution. Bien, j'ai longuement cité Lévi-Strauss afin de vous convaincre d'un point. Et ce point, c'est que ce qui caractérise les sociétés premières, dans la globalité de leur action pratique, c'est une volonté de constance. C'est cette volonté, je cite à nouveau Lévi-Strauss, de se maintenir indéfiniment dans leur état initial, de persévérer dans leur être, de continuer la société telle que les ancêtres l'ont instituée, et pour la simple raison que les ancêtres l'ont instituée ainsi. Je crois que c'est depuis cette volonté de constance, depuis ce rapport général à leur existence, qu'on peut comprendre la surprenante stabilité économique des sociétés premières, à l'échelle des milliers d'années de leur existence, des sociétés sans croissance économique. Et des sociétés sans croissance économique, pas parce qu'elles en sont incapables, mais parce qu'elles ne veulent pas la croissance. Elles veulent persévérer dans leur être, elles veulent maintenir indéfiniment leur état initial. C'est bien en fonction de ces observations de l'ethnologie et de l'anthropologie que je m'autorise à parler non pas d'un constat de constance, mais bien d'une volonté de constance. La stabilité économique des sociétés premières n'est pas le signe d'un manque, d'un problème. Elle est le signe d'une volonté. Et cette volonté qu'on voit s'appliquer à l'économie, on la voit s'appliquer partout ailleurs dans la société. Partout ailleurs, il n'est pas question de produire, il est question de reproduire. Si la caractéristique des sociétés dotées de la volonté de croissance est de produire, la production, la caractéristique, me semble-t-il, des sociétés premières, c'est la reproduction. Bien. Alors, ce dépaysement brouille la donne classique qu'on s'était un peu habitué à faire. Parce que Keynes, je le cite à nouveau, nous disait qu'on s'est, voilà, on s'est habitué à penser, et je crois qu'on a été pendant longtemps fondé à penser, spontanément, que l'humanité avait toujours vécu dans un problème économique. Or, à l'examen, il apparaît que l'homme n'a pas toujours vécu son expérience sur le mode d'une rareté dont il faudrait s'échapper. Pendant la majeure partie de son histoire, l'humanité n'a pas pensé selon les termes de la rareté. Si l'humanité n'est plus constituée que par une seule espèce, Homo sapiens, depuis environ 35 000 ans, et si l'on admet que la néolithisation s'amorce aux alentours du 10e millénaire avant Jésus-Christ, il apparaît que pendant la plus longue durée de son histoire, 25 000 ans, l'homme a été animé par la volonté de constance. C'est troublant, mais c'est ainsi. Dans tous les cas, et sans même entrer dans les débats complexes de datation, il faut se faire à l'idée que la volonté de croissance, la nôtre, loin d'être une constante anthropologique, est dotée d'une historicité. Il s'en faut de beaucoup pour que l'homme ait, depuis la nuit des temps, voulu la croissance, vécu dans un monde marqué par la rareté. Volonté d'abondance donc, volonté de croissance, et puis cette très longue volonté de constance. Au terme de ces deux mises en perspective, il semble qu'on puisse dégager au moins trois attitudes face à la production économique. L'une, c'est la constance, c'est-à-dire la volonté de reproduire l'état initial. La seconde attitude, c'est l'abondance, c'est-à-dire la volonté de rejoindre un certain état final. Et la troisième, la nôtre, c'est la croissance, c'est-à-dire la volonté de n'attacher d'importance décisive ni à un état initial, ni à un état final, mais à la continuation de la croissance de la production de valeur par l'économie. Dans un cas, donc, la constance structurée par l'état initial, dans l'autre cas, l'abondance structurée par un état final, et puis un troisième cas, le nôtre, qui n'est structuré ni par un état initial, ni par un état final, mais qui est structuré par la volonté de continuer un processus de production dont la clé de voûte n'est ni un commencement, ni une fin. En d'autres termes, il apparaît que la question n'est pas simplement celle des rapports de production qui ont été théorisés précisément par le socialisme, mais des rapports à la production. Toutes les sociétés documentées historiquement n'entretiennent pas le même rapport à l'égard de la production. Cela m'amène à vous proposer qu'il se pose un problème vis-à-vis de la croissance économique qui n'est pas un problème économique. La réflexion économique sur la croissance, la réflexion économique contemporaine sur la croissance, s'efforce de penser l'optimisation des rapports de production. Et la réflexion sur les institutions se situe à la pointe des théories macroéconomiques sur la croissance. Mais vous conviendrez avec moi que cette réflexion contemporaine part du principe que la croissance de la production de valeur économique est souhaitable et effectivement souhaitée. Tel est le problème des rapports de production. Mais cette question des rapports de production laisse alors dans l'ombre un autre problème qui n'est pas économique et qui est d'essayer de comprendre que non seulement certaines sociétés humaines veulent la croissance et d'autres non, mais aussi que parmi les sociétés qui veulent la croissance, certaines la veulent tendue vers un état final et d'autres la veulent à perpétuité. Telle est la question des rapports à la production. On pourrait multiplier et donner à toutes les réflexions contemporaines sur la croissance et les rapports de production, on pourrait leur donner un développement absolument considérable. Vous conviendrez avec moi que toutes ces réflexions seraient de peu d'utilité pour des sociétés qui ne seraient pas animées par la volonté de croissance. Il leur manquerait quelque chose qui se situe avant l'économie et qui semble donner le cadre général à l'action économique. Bien, toute cette étude préliminaire sur la question de la croissance m'a finalement amené à vous proposer aujourd'hui la formulation suivante. La pluralité des rapports à la croissance de la production de valeur, interdisant de penser que le rapport à la croissance est naturel. La question est donc, que se joue-t-il de culturel dans ces différents rapports à la production? Ce problème, vous le voyez, n'est pas un problème économique. Il faut, je crois, être à la hauteur du conseil de Schumpeter, qui a très suggestivement proposé que l'évolution économique, qui est vraiment un de ses principaux thèmes, je le cite, n'est pas un phénomène pouvant être expliqué économiquement jusqu'en son essence la plus profonde. Mais l'économie, dépourvue par elle-même d'évolution, est comme entraînée par les modifications de son milieu. Les raisons et l'explication de l'évolution doivent être cherchées en dehors du groupe de faits que décrit en principe la théorie économique. En dehors. Mais où ? Pour se confronter à ce problème et en obtenir une meilleure formulation, il a fallu commencer par dater approximativement le basculement de représentation de la volonté d'abondance vers la volonté de croissance. Ce basculement, ce point d'inflexion, il est facile à situer. Pour Hegel, comme pour Smith, plus tard pour Marx, comme pour Stuart Mill, enfin pour Keynes, comme pour Schumpeter, il n'est pas douteux que le problème économique est provisoire. Par le jeu de sa puissance de production, l'humanité atteindra un point d'abondance. Et à partir de ce point d'abondance, la volonté pratique pourra se déployer ailleurs que dans l'économie. Hegel, Smith, Marx, Stuart Mill, Keynes, Schumpeter. Pendant les deux premiers siècles de la conscience historique moderne, on a cru que l'accumulation économique visait à résoudre un problème économique, le problème de la rareté solutionné par la situation de l'abondance. Or cela, pour nous, il est désormais impossible de le croire. S'il n'y a pas d'abondance à l'horizon, ce n'est pas lié à une incapacité de nos sociétés à résoudre le problème de la rareté. Quand une société vise consciemment la croissance durable, son problème n'est pas un problème économique, un problème de rareté ou d'abondance. Et il n'y a guère de doute alors, comme le propose Schumpeter, que la raison profonde de l'économie n'est pas dans l'économie. On peut considérer que le basculement de représentation entre la volonté d'abondance et la volonté de croissance s'est produit aux alentours de la Deuxième Guerre mondiale. Avant 1939, de manière certaine, on est dans la volonté d'abondance. Après, on est dans la volonté de croissance. Keynes et Schumpeter étant morts, leurs successeurs ont donné un tour très différent aux recherches macroéconomiques. On date généralement la formulation d'une première théorie de la croissance à 1956 avec le résultat obtenu par un économiste qui s'appelle Robert Solow. Et plus généralement, c'est après-guerre, en dépit de difficultés techniques immenses, qu'on a conçu ces systèmes de comptabilité nationale, qui sont toujours les nôtres, qui permettent de mesurer les performances d'une économie, pour être clair, de mesurer la croissance, ce qu'on n'avait jamais fait avant. De la mesurer donc, non en regard d'un état final à venir, mais pour elle-même, la croissance de la production de valeur ajoutée par rapport à l'année précédente. Il se trouve que ce basculement vers la société de croissance, vers la volonté de croissance, pardon, a été diagnostiqué par quelqu'un qui n'est pas un économiste, mais que l'économie intéressait, et qui est Raymond Aron. À la fin des années 50, dans un cours célèbre donné à la Sorbonne, les 18 leçons sur la société industrielle, en plein contexte de guerre froide, Raymond Aron constate combien, au-delà de leurs différences, il existe une dynamique commune aux sociétés communistes et aux sociétés capitalistes. Ce point commun, c'est justement leur volonté de croissance. Aron écrit à ce sujet « L'augmentation de la richesse est devenue non seulement un fait constant, mais une exigence des masses et des gouvernements. Les sociétés soviétiques et les sociétés capitalistes ne sont que deux espèces d'un même genre ou deux modalités du même type social, la société industrielle progressive. » Volonté de constance nettement caractérisée par Aron, et pour nous qui parlons ce soir de l'idée socialiste, caractérisée par Aron comme absolument commune aux sociétés capitalistes et aux sociétés soviétiques, qu'il regroupe du coup dans cet ensemble qu'il appelle les sociétés industrielles en disant que leurs points de convergence en termes d'orientation historique, les points de convergence sont bien plus forts que les points de divergence. Raymond Aron suggère que c'est en fonction d'un problème historique plus global qu'on peut comprendre l'orientation économique vers la croissance. Et je crois que c'est un point important, parce que selon lui, ce qui se joue dans la volonté de croissance ne peut être compris en dehors d'une situation plus globale de la conscience historique. La croissance n'a pas qu'un effet sur le niveau de vie. Plus largement, elle a une importance authentiquement symbolique. Dans les dimensions de la conscience historique, Raymond Aron consacre un chapitre entier à ce qu'il appelle la notion du sens de l'histoire. Dans ce chapitre, il s'efforce d'identifier certains des schèmes en fonction desquels, depuis l'avènement de la conscience historique aux alentours de 1800, l'histoire a été pensée. Il explique alors que d'une manière ou d'une autre, de Hegel jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les hommes ne se sont orientés dans l'histoire qu'en fonction d'une fin de l'histoire. Une fin de l'histoire à partir de laquelle l'humanité serait réconciliée avec elle-même et produirait l'histoire en sachant l'histoire qu'elle produit. C'est en fonction de cette fin qu'on était à même ensuite depuis le présent, de situer un sens à l'histoire. Vous regardez la fin, vous regardez le présent, et vous trouvez le sens. Or, cette croyance dans la fin de l'histoire, une fois entrée en crise à la faveur de l'histoire du 1er et 20e siècle, eh bien, en l'absence de cette fin, les hommes peinent à trouver un sens à l'histoire qu'ils font. Il faut se représenter que la dissipation, la fragilisation de cette idée de fin de l'histoire rend très problématique la pensée d'un sens de l'histoire, puisque ce sens de l'histoire était rendu possible par une trajectoire qui reliait un présent à un état final. C'est dans ce contexte de désorientation historique que la croissance, non pas en tant que phénomène économique, mais en tant que conscience historique. Dans ce contexte que la croissance fait son entrée. Et Raymond Aron écrit à ce sujet, « Il y a donc un problème positif de la notion de progrès. Comment peut-on mettre en perspective les différentes étapes de l'histoire ? Ou encore, quelle sorte de relation peut-on et doit-on établir entre les différents moments d'un devenir ? Y a-t-il des activités humaines pour lesquelles la détermination de la supériorité actuelle sur les sociétés passées soit immédiatement donnée ? Au nom de quoi nous sentons-nous supérieurs aux sociétés qui nous ont précédés ? Et Raymond Aron écrit « Au point de départ, une première idée s'impose, simple et fondamentale. Certaines activités humaines ont un caractère tel que l'on ne peut pas ne pas reconnaître une supériorité du présent sur le passé et de l'avenir sur le présent. Ce sont les activités dont les produits s'accumulent ou dont les résultats ont un caractère quantitatif. » La croissance, donc, serait ce qui reste de la possibilité du progrès après la fin de l'histoire. Ne disposant plus de la perspective d'une fin, on se replierait sur la croissance, qui a au moins la vertu, par comparaison avec le passé vis-à-vis du présent et de l'avenir par rapport au présent, de nous garantir que nous sommes dans une perspective progressive. Je crois donc, après Aron, que la volonté vers une croissance perpétuelle, cette volonté de croissance dont je parlais, gagnerait à être pensée à la lumière des modifications de la conscience historique auxquelles Aron s'intéresse. Tout se passe comme si, pour résumer les choses, comme si, parce que nous ne croyons plus à aucune fin, à aucune finalité de l'histoire, nous voulons une croissance infinie. Jusqu'ici, la fin justifiait les moyens. À présent, il n'y a plus que des moyens à perpétuité. Telle est la croissance, telle est la volonté de croissance, par différence avec la volonté d'abondance. Nous n'avons plus aucune certitude sur l'histoire que nous faisons, mais la croissance offre au moins la possibilité indéniable de reconnaître une supériorité du présent sur le passé et de l'avenir sur le présent. À présent, si ce propos vous a semblé compréhensible jusque-là, je l'espère, à présent, j'aimerais essayer de ramasser tout ce qui vient d'être dit depuis environ une demi-heure, afin d'en tirer quelques conclusions qui vont nous permettre ensuite d'aller beaucoup plus vite sur la deuxième partie. Parce que je crois que l'essentiel du travail préalable a été fait avec ces distinctions. Bien. Si on considère d'un seul regard les interprétations proposées par Lévi-Strauss quant aux sociétés premières et par Raymond Aron quant aux sociétés industrielles, il apparaît en fait une ligne de convergence. Elle est, je crois, frappante. Dans les deux cas, les auteurs situent le rapport à la production de valeurs économiques au sein du contexte plus global des valeurs de la société. Quand les valeurs de la société sont structurées par la perpétuation du legs des ancêtres, le rapport à la production de valeurs économiques est placé sous le signe de la volonté de constance de la production. Là où les valeurs de la société sont organisées par la perspective d'un progrès débouchant dans un état final, le rapport à la production est placé sous le signe de la volonté d'abondance, lui aussi tourné vers la perspective d'un état final de l'histoire. Quand enfin les valeurs de la société ne sont plus structurées ni par un état final ni par un état initial, alors il y a volonté de croissance durable, indéfinie, de la production de valeurs économiques. Vous voyez, dans ces différentes formulations, je fais jouer deux fois la notion de valeur. Une fois, d'une manière extrêmement économique, la croissance, c'est la production de valeur économique, c'est sa définition comptable, économétrique. Mais je situe le rapport à la production de valeur économique dans le contexte plus large des valeurs d'une société. La société première est la société en toute chose de la reproduction des valeurs. Elle reproduit les valeurs sociales, les valeurs politiques, etc. Et au sein de ce contexte global de reproduction des valeurs, il n'est pas étonnant que lorsqu'il est question d'une sphère particulière de valorisation, la valeur économique, il soit là aussi question de reproduction. À l'inverse, nous, en 2010, nous vivons dans un contexte où un mot rayonne au-dessus des autres, quand il est question de valeur éthique, sociale, politique, et ce mot, c'est évidemment le terme d'autonomie. La démocratie se veut un gouvernement autonome. Et nous-mêmes, dans nos actions éthiques, nous avons l'intention d'être autonomes. Que signifie l'autonomie? Elle signifie que le contexte global de valorisation de nos sociétés est un contexte de la production des valeurs. Et au sein de ce contexte global de production des valeurs, on observe que la valeur économique est elle aussi située dans un rapport de production. La thèse que je soutiens ici est une thèse qui peut sembler audacieuse parce qu'elle consiste à parler ensemble de deux occurrences du mot valeur que nous avons l'habitude de tenir extraordinairement à distance. Vous voyez la crise financière ces jours-ci, on joue contre la valeur financière, le retour des valeurs sociales, éthiques, etc. C'est comme ça que ça se passe. On s'est autrement dit déshabitué à comprendre pourquoi, dans les langues européennes, et c'est le cas en allemand, en anglais, en italien, en français, dans les langues européennes, c'est toujours le même mot, valeur, value, vert, qui vient désigner à la fois la valeur dans son principe économique, mais aussi les valeurs dans leur questionnement social, etc. Ça peut sembler paradoxal, mais j'ajoute une pierre à l'édifice en soulignant ce fait, qui est plutôt un fait philologique, si vous préférez. Du point de vue de l'histoire des idées, l'usage du même mot, valeur, pour désigner deux choses aussi différentes que la valeur économique et les valeurs éthiques, est tout sauf un hasard. Si bien je crois que tenir à distance la valeur économique et les valeurs éthiques revient à oublier que c'est intentionnellement que Nietzsche a fait de la notion de valeur le concept central de sa philosophie. Karl Levitt a montré que c'est à la suite de lectures en économie politique, et plus spécialement en économie politique anglaise, que Nietzsche opte pour le mot « vert », qui veut dire « valeur ». C'est ainsi, et cela peut nous surprendre, mais la philosophie a forgé son concept de valeur, et on a fait un de ses problèmes principaux en empruntant un concept originellement développé en économie politique. Et quoique 150 ans après Nietzsche, les deux notions, valeur économique, valeur philosophique, sont devenues étrangères et presque opposées, il y a du point de vue de l'histoire des idées une source commune à l'idée de valeur au singulier et de valeur au pluriel. Nous retrouvons là, dans l'histoire des idées, ce fait que nous vérifions par ailleurs avec Claude Lévi-Strauss et Raymond Aron, c'est-à-dire qu'un contexte général de reproduction des valeurs se laisse voir aussi dans la sphère économique une volonté de reproduction, et qu'un contexte général à la production des valeurs fait signe vers une attitude économique de production de la valeur ajoutée. C'est en fonction de ces constats qu'il me semble possible d'introduire ce que je vais appeler l'expression de la locution de mode de valorisation. Ce dont je veux vous convaincre, c'est que ces différents rapports à la production dont je parlais plus tôt, volonté de croissance, d'abondance, de constance, que j'étudiais sur le volet exclusivement économique. En y creusant un peu, on se rend compte que ces différents rapports à la production ne sont absolument pas séparables d'un contexte plus global des valeurs qui englobe la valeur économique et la valeur économique semblant s'en satisfaire. Et ce contexte plus global, c'est ce que je propose d'appeler un mode de valorisation. Pour dire les choses simplement, ce serait aller trop loin que de développer ce moment-là de la réflexion. Pour dire les choses simplement, il me semble que, par exemple, le mode de valorisation des sociétés premières peut être caractérisé par la reproduction des valeurs dans la sphère éthique, dans la sphère politique, dans la sphère religieuse et aussi dans la sphère économique. Et notre propre mode de valorisation peut être pensé, je crois, par le terme de production. C'est cela qui le caractérise. Bien. Vous voyez, un très long détour pour arriver à une nouvelle conceptualisation de ce thème de la production. Et en fait, l'extraire de sa gangue économique par laquelle nous avons spontanément la tentation de l'approcher. Pour nous, qui entendons le terme de production, la production c'est d'abord une affaire d'économie. Bien sûr, nous observons que nous utilisons le terme de production dans bien d'autres occasions. Et tout de même, la production, et quand on dit la production de valeur, on pense tout de suite croissance et économie. Ce dont j'ai essayé de vous convaincre, c'est qu'en fait, la production, ça va chercher beaucoup plus loin que la valeur économique. Mais la valeur économique est un extraordinaire poste d'observation, une sphère de valeur parmi d'autres, pour comprendre quelque chose de beaucoup plus global et de beaucoup plus général au rapport d'une société à l'égard de ses valeurs. Et pour être plus précis, au rapport d'une société à la manière de s'engager vers la valeur, ce que j'appelle un mode de valorisation. Dès lors, le terme de production n'est plus seulement une attitude économique à l'égard de la production de valeur ajoutée, mais c'est une attitude beaucoup plus globale qui est le propre de la modernité. La modernité étant, je crois, je serais heureux de rencontrer une objection, mais jusqu'à présent je ne l'ai pas rencontrée, la modernité, les sociétés modernes étant les seules à l'échelle de l'itinéraire humain, qui se soit arrogé ce droit qui semblerait exorbitant aux sociétés premières, mais exorbitant aussi à Aristote, c'est-à-dire le droit de produire les valeurs, de transformer les valeurs, et non pas simplement de les recevoir, soit comme les sociétés premières des ancêtres, c'est-à-dire du début, soit, par exemple, pour les sociétés comme celle d'Aristote, pour prendre un exemple philosophique connu, d'en haut, l'acte. Nous, pour nous, les valeurs, ce n'est pas quelque chose qui vient d'en haut, et ce n'est pas quelque chose qui vient de loin dans le passé. Nos valeurs, nous assumons le fait que nous les produisons. Mais si vous comparez cette autorisation que nous nous faisons sur ce sujet à l'échelle de l'itinéraire humain, vous prenez conscience de l'extraordinaire nouveauté, basculement, que représente ce contexte de valorisation situé sur le mode de la production. Partout, nous entendons être autonomes. La démocratie rédige ses propres lois. Chacun d'entre nous, il nous revient d'agir en fonction de valeurs que nous choisissons, qui changent au fur et à mesure de notre vie, que nous produisons. Et dans la sphère économique, évidemment, mais là, c'est encore là que c'est plus flagrant, nous produisons de la valeur, nous en produisons chaque année, nous en produisons plus. Bien. Donc voilà pour le terme de production. Alors pourquoi j'ai fait tout ça? À présent, je vais essayer de me passer un peu des notes parce que l'exposé que j'avais préparé n'avait pas incorporé l'imprévu de ce long retard. Et ce sera sans doute peut-être plus simple de parler sans. Si nous sommes à présent d'accord sur l'idée de considérer la production d'une manière beaucoup plus large que la manière économique, nous allons à présent pouvoir nous donner les moyens de tirer un grand nombre de conséquences de ce déplacement de vue, qui n'est pas vraiment un déplacement d'ailleurs, mais qui est plutôt un immense élargissement d'optique. Nous nous étions habitués, avec Marx spécifiquement, à voir le terme de production entrer dans le langage philosophique depuis l'économie. Marx est quelqu'un qui, lorsqu'il parle de production, parle, on le sait, d'infrastructure. Il parle industrie, il parle prolétaire, il parle mode de production, usine, industrie et tout ce que vous voulez. Bien. Or, cette manière de considérer les choses, et on peut la situer historiquement, puisqu'il écrit quelque temps après la révolution industrielle, je veux dire, cette partie de la production des valeurs qui est la plus frappante de loin pour un observateur aussi informé que Marx, c'est probablement dans la sphère économique qu'elle se produit. La production de valeurs, là, elle est évidente. Et donc, ça l'amène ensuite à développer toute une réflexion sur les rapports de production. Ce que je propose pour ma part, c'est de considérer qu'étant tout de même un peu mieux informé que Marx sur la généalogie de la modernité, et aussi sur ces sociétés premières qui ont occupé la scène pendant tant d'années, tant de milliers d'années, nous pouvons, en fait, nous donner les moyens de penser la production d'une toute autre manière que Marx l'a pensée, en la caractérisant non pas comme une certaine manière d'agir pratiquement en économie, mais comme un rapport plus général à l'égard de notre action pratique, comme ce que j'ai appelé un mode de valorisation. Une fois qu'on élargit le spectre, alors on ajoute à la réflexion sur les rapports de production une réflexion sur les rapports à la production. Et notre question, à présent, dans la dernière partie de cet exposé, va être d'essayer de comprendre comment on est passé de la volonté d'abondance à la volonté de croissance. Autrement dit, comment se fait-il qu'a disparu cette optique finale, là, qui structurait aussi bien dans notre action économique que dans notre action plus globale, fin de l'histoire, comment cet état final a cessé d'être pour nous la lanterne? Et comment donc nous trouvons-nous à présent dans une situation dans laquelle nous savons croître, et nous savons que ce processus continuera, mais nous ne situons aucun point final pour donner sa mesure à ce processus de croissance? Comment le penser? Eh bien, je pense que la manière d'entrer dans ce problème peut s'appuyer sur deux plans, qui sont, et je le fais sans doute par commodité, les catégories de l'espace et du temps. Je commence par le temps. Si on y songe, la volonté d'abondance, c'est l'idée que oui, on produit. Vous comprenez bien que je m'appuie là sur la sphère économique pour parler un peu plus largement. Prenons l'exemple économique donc. La volonté d'abondance en économie, pour Keynes, mettons, c'est l'idée qu'on va produire, certes, on va beaucoup produire même, puisqu'il imagine encore que la chose continue pendant 80 ou 100 ans, il parle pour ses petits-enfants. On produit, mais à un moment donné, il ne sera plus nécessaire de produire, parce qu'on aura atteint un point final. D'accord ? Si on y réfléchit, la disparition de cet état final en économie, la disparition de cet état final est le signe d'un approfondissement, d'une accentuation de notre représentation de la production. Autrement dit, Keynes imaginait que la production, enfin il voyait la production, on la voyait depuis Marx, on la voyait depuis Smith, elle était là. Il imaginait que la production allait être considérable, puisqu'il imagine un décuplement. Simplement, il imagine qu'après ce décuplement, ça ira comme ça. Nous, notre perspective sur la production de valeur, elle s'est accentuée. Si bien que la production de valeur pourrait être décuplée, ou multipliée par 100 même. On n'imagine pas, pour autant, qu'on arrêterait de produire. Parce que, à la différence de Keynes, nous considérons que la production de valeur en économie n'est pas un état transitoire, mais un état permanent. Nous nous sommes donc installés dans cette perspective de la production de valeur d'une manière bien plus forte que celle où Keynes l'avait considérée. Voilà pour la partie économique. Mais si vous considérez à présent la partie plus historique, je disais avec Raymond Aron tout à l'heure que la caractéristique de ce sens de l'histoire, de l'émergence de la conscience historique aux alentours de 1800 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ça a été d'être structuré par une fin de l'histoire, qui est donc parfaitement parallèle à cet état d'abondance dont je parlais en économie. Là, pareil, on s'était habitué depuis Marx, qui est quand même un des principaux penseurs de l'histoire, on s'était habitué à produire notre histoire, à transformer le monde. Mais simplement, Marx, il imaginait qu'à un moment donné, ça s'arrêterait. Et ce qui a changé pour nous, c'est quand on laisse l'économie à l'instant, mais qu'on considère plus globalement notre action historique. Nous savons que nous transformons le monde, nous savons que nous produisons notre histoire. Mais contrairement à Marx, nous n'imaginons plus que cette transformation doive s'arrêter. Nous considérons qu'en fait, produire l'histoire, c'est notre état permanent. Donc, vous le voyez, sur la dimension du temps, on peut lire ici, à travers l'évanouissement de la perspective de fin, fin de l'histoire ou point d'abondance, on peut lire une accentuation, une sorte d'épanouissement dans ce mode de valorisation qu'est la production des valeurs. Plus que jamais, nous sommes persuadés que nous produisons nos valeurs, et plus que jamais, nous sommes persuadés que nous les produirons toujours, et que ça n'a pas de raison de s'arrêter. Voilà pour le temps. À présent, j'aimerais bien raisonner sur l'espace. C'est aussi une manière de raisonner sur l'espèce. Je crois qu'un des faits frappants de la modification des représentations à l'échelle des 40 dernières années tient à l'évanouissement de la différence que la modernité s'était efforcée de construire entre l'humain et le non-humain. De Bacon, en passant par Descartes, jusqu'à Saint-Simon, Marx, le non-humain était ce sur quoi l'humain pouvait intervenir, éventuellement pour le transformer. Telle est la science moderne, l'expérience, etc. C'est ça, si vous voulez que je reprenne une sorte de cliché philosophique, cette idée d'être maître et possesseur de la nature. Voilà, il y a du non-humain, et la nature, c'est ce qui n'est pas humain. Et l'humain se trouve dans une position extrêmement favorable, maîtrise, possession, à l'égard de ce non-humain. Bien. Or, à l'échelle des 40 dernières années, il y a ce que je serais tenté d'appeler une dédifférenciation ontique entre l'humain et le non-humain. Pendant 4 siècles, la différence s'était creusée, le non-humain de plus en plus non-humain, l'humain de plus en plus possesseur et maître de cet humain, et puis là, brusquement, en 40 ans, hop, ça s'est évanoui. À présent, on se sent, nous, êtres humains, appartenir à quelque chose qui nous dépasse, qui est la nature, qui est, mettons, la planète, qu'on peut appeler avec Yann Arthus-Bertrand la maison, home, et pas de différence de principe. On hésite à donner une citoyenneté juridique sympathique grand singe. On hésite. Et quant à nous aussi, on se rend compte que cette possibilité d'intervention, de transformation, je lâche le mot, de production, en réalité, on peut l'exercer sur nous. Manipulation génétique, ce que Habermas appelle par ailleurs l'eugénisme libéral. Il y a en effet une question sur la nature humaine, et plus simplement une question sur la nature d'un côté, et sur l'humanité d'un autre côté. Quant à cette dédifférenciation, il y a deux manières de la considérer. Première manière, une manière qui est, je crois, fausse, et qui est la manière majoritaire. Elle consiste à dire qu'en fait, l'homme n'a pas vraiment de privilège à l'égard de la nature. Il est un parmi d'autres. La preuve, la nature en ce moment est en train de nous jouer des tours. En tout cas, on sent bien que quelques degrés en plus, et nous ne sommes plus que quelques millions. Encore quelques degrés, et nous ne sommes plus. Donc voilà pour une manière de considérer la dédifférenciation. À présent, j'aimerais essayer de vous convaincre que tout ce qui vient d'être dit sur l'idée de production nous aide à regarder cette dédifférenciation qui est indéniable, mais de la regarder d'une autre manière, en nous convainquant qu'en fait, cette dédifférenciation entre l'humain et la nature n'est pas le fait d'un souvenir ancestral de l'appartenance au cosmos, mais elle est au contraire le signe d'un épanouissement d'idées de production. Ce qui fait qu'il y a eu dédifférenciation entre l'humain et la nature, c'est le fait que nous nous sommes mis à découvrir que l'humain lui-même était susceptible de faire l'objet d'une production. Ce que nous nous étions jamais imaginé auparavant. Eh oui, on peut faire des greffes, on peut mettre des pacemakers, on peut faire des manipulations génétiques, ou mettre des prothèses en silicone, on peut faire toutes sortes de choses. L'espèce humaine s'est dédifférenciée du reste du règne humain, non pas par retour à une perspective cosmologique où l'homme est inclus dans des sphères lunaires, sublunaires, supralunaires. Non. La dédifférenciation a eu lieu parce que au fur et à mesure de l'approfondissement de cette perspective de production, de transformation, nous sommes arrivés à découvrir qu'en fait, cette différence de principe que nous avions maintenue entre la nature et l'humain, cette différence n'a pas lieu d'être. Nous pouvons transformer l'humain de la même manière que nous transformons la nature. En termes scientifiques, en termes techniques, la manipulation génétique sur un cactus est comparable à celle que nous pourrions entreprendre sur un jeune homme. C'est pareil. Bon. Alors à présent, je vais, pour finir, tracer deux voies parallèles. Tout à l'heure, j'ai sans doute manqué de nuance en disant on a une qui est fausse et une qui est vraie. Les choses plus honnêtement, il y a deux perspectives, une que je défends et une que je ne défends pas. Celle que je ne défends pas, c'est celle que je vais appeler brutalement celle de l'écologie politique. Celle-là, c'est en effet, je crois, celle qui repose sur cette prémisse que la dédifférenciation entre l'humain et la nature n'a pas eu lieu en fonction de ce que je disais sur la production, mais elle a eu lieu en fonction, brusquement, après la Deuxième Guerre mondiale, après des choses horribles qui se sont passées, une sorte de retour à la conscience. On a fait la jonction avec une perspective ancestrale de l'appartenance à un cosmos qui nous dépasse. Et cette perspective-là, celle de l'écologie politique, était évidemment rendue crédible par le fait que, parallèlement, nous nous intéressions à toutes sortes de sociétés dans le monde qui avaient pour caractéristique de se croire encore dans un cosmos qui les dépasse. De ce point de vue-là, l'anthropologie, l'ethnologie jouaient le jeu de cette perspective d'une inclusion dans le cosmos. On avait l'impression, par cette dédifférenciation entre nature et humanité, qu'on rejoignait en fait la vraie perspective pérenne de l'humanité, qui s'était arrogée pendant quelques siècles un privilège sur la nature, mais ce privilège n'était pas fondé, il fallait le refuser. Et cette tendance, en fait, on la sent très précocement, dès la Deuxième Guerre mondiale, dans l'ouvrage de Adorno et Horkheimer, Dialectique de la raison. C'est là qu'en fait, les modernes commencent à se dire, la raison joue contre l'humanité, nous devons revenir à autre chose. Et donc, la perspective d'une dédifférenciation entre l'humain et la nature venait apporter la solution au problème. Oui, nous sommes les humains dans une sorte de Gaïa qui nous dépasse, planète, cosmos, appelez ça comme vous voudrez, et nous allons trouver notre loi politique et éthique dans ce contexte-là. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, les choses sont simples. Je crois qu'elles sont jamais mieux présentées dans un texte pour lequel j'ai personnellement énormément d'admiration, mais que je considère globalement comme un texte faux. C'est le principe responsabilité de Hans Jonas. Tout le principe responsabilité de Hans Jonas est fondé sur l'idée d'une sorte... c'est marrant parce que c'était un élève de Heidegger, mais on pourrait dire, et ce serait erroné, mais c'est amusant de le dire, sur une sorte d'oubli de l'être. Voilà. On a oublié cette appartenance à quelque chose qui nous dépasse. J'ai apporté le livre, rien que le sommaire, c'est frappant. Lorsque Hans Jonas théorise sa théorie de la responsabilité, il écrit ceci. L'existence de l'humanité, deux points, ouvrez les guillemets, le premier commandement. Voilà. Donc, en réalité, une fois qu'on s'est réinclus, une fois que cette dédifférenciation entre nature et humanité est faite, mais selon l'angle un peu ancienne du cosmos, de l'appartenance, et j'ose le dire, d'une certaine forme de transcendance, la Terre et nous, eh bien, une fois que ça c'est fait, on retombe, je crois, assez rigoureusement, et ça on peut faire tous les procès à Hans Jonas, mais pas le procès de la légèreté philosophique, c'est un homme rigoureux, une pensée extrêmement structurée. Une fois qu'on a fait le choix d'une dédifférenciation placée sous le signe, en fait, d'une inclusion, d'une transcendance, alors on retombe sur des formulations politiques et éthiques qui sont celles qui correspondent à un environnement symbolique où l'homme s'imagine dominé par quelque chose qui le dépasse. Quelles sont ces formulations politiques? Dans l'histoire occidentale, je crois qu'elles ne sont jamais mieux formulées que dans la cité grecque. La cité grecque, qui est un microcosme, et donc, pour trouver les lois de la cité grecque, il faut la penser comme inclue dans un environnement qui la dépasse, et nous trouverons nos propres lois, par réflexion, sur ce cosmos qui nous dépasse. Donc, clé pour l'apprentissage de la politique, la théoria, l'observation du fonctionnement de la nature. Et je suis frappé de voir à quel point ce vide éthique que l'écologie politique prétend combler, alors je parle de Jonas, mais il faut élargir, parce que c'est encore le plus Là, on y trouve une formulation extrêmement rigoureuse. Ce n'est pas toujours le cas. Je crois que c'est pour ça que c'est un texte extrêmement précieux. Une fois qu'on s'est dit que la dédifférenciation a lieu, parce qu'on revient à une perspective où l'homme est simplement inclus dans quelque chose qui le dépasse et que j'appelle le cosmos par fidélité au grec, eh bien du coup on retombe sur des formulations politiques qui sont des formulations politiques d'inclusion. La loi tombe, et c'est ce que Jonas appelle d'ailleurs, parce que c'est le bon terme, le premier commandement, et puis il y aura d'autres commandements. Mais ce sont des commandements qui tombent. Pour vous convaincre encore un instant de cette chose-là, peut-être faut-il vous lire ce bref extrait où Jonas compare. Donnez-moi un instant, je vous prie, compare la valeur et le bien. Et là, vous allez voir, c'est clair et net. Du point de vue linguistique, le bien face à la valeur possède la plus grande dignité de l'être en soi. Le bien supérieur à la valeur. Pourquoi ? Nous inclinons à le comprendre, le bien, comme quelque chose qui est indépendant de nos désirs et de nos opinions. Le mot valeur, en revanche, s'associe volontiers à la question pour qui et combien. Le terme a son origine dans la sphère de l'estimation et du troc. Il désigne donc, pour commencer, simplement un degré du vouloir, à savoir du vouloir, investir, et non du devoir. Le bien, lui, a à voir avec le devoir. Donc, là, on tombe sur l'écologie politique, je crois, on tombe dans le réacteur nucléaire, ça leur fait pas plaisir, de l'écologie politique. Parce qu'en réalité, on se rend compte que le but éthique et politique de l'écologie politique est un privilège accordé au devoir sur le vouloir. Et là, il y a quand même un problème. C'est que toute la perspective politique et éthique de la modernité a été celle de la substitution du vouloir, mais du vouloir fondé en raison, hein, vraiment c'est pas une lubie, du vouloir sur le devoir qui viendrait d'ailleurs. Le vouloir comme loi, là je crois qu'il faut être rousseauiste, le vouloir comme loi synonyme de liberté parce que voulu par chacun d'entre nous. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'écologie politique me semble extrêmement mal engagée, tout simplement parce que son choix de départ de considérer la dédifférenciation entre humanité et nature sous la figure d'une inclusion de l'homme dans un cosmos l'amène en toute logique à formuler une proposition éthique et une proposition politique qui sont véritablement intenables pour la modernité. Ça marche très bien dans la cité grecque, mais nous n'y croyons pas une seconde. Tout simplement parce que nous entendons produire nos valeurs. Nous sommes des êtres qui se pensons comme autonomes. Nous n'avons pas l'intention d'envoyer notre loi morale dans une capsule et de la faire tourner en orbite géostationnaire autour de l'humanité. Non, nous avons l'intention de vouloir et de vouloir aussi pouvoir changer notre loi, etc. C'est ça la démocratie et c'est ça aussi l'existence éthique de l'individu moderne. Donc là, quand on va jusqu'à là, on trouve ce qui fait problème à la fois dans la perspective éthique et aussi dans la perspective politique de l'écologie politique. Ce qui m'amène à considérer qu'elle est en fait la négation de la politique, de la pensée politique moderne. Mais il ne faut pas lui en vouloir, parce que comme je viens d'essayer de le reconstituer, cette pente était en effet une possibilité. À partir de cette observation de la dédifférenciation, il y avait en effet cette possibilité. À présent, j'aimerais en tracer devant vous une autre. Vous m'accorderez quelques minutes en plus.
On a le temps. De toute façon, il y a un suspense, donc il faut absolument...
Bon. Vous êtes sympa. Oui, puisqu'on a un petit moment de pause là. Sur cette histoire là, je parle. Bon, vous avez vu, Jonas parle d'un premier commandement. Il a une préférence pour le devoir contre le vouloir. Mais c'est extrêmement frappant à notre époque même. Moi, j'habite à Paris, dans un immeuble. En bas, il y a trois poubelles. La bleue, la rouge, enfin, je ne me rappelle plus les couleurs. En tout cas, je sais que quand je descends, je fais gaffe. Plastique, carton, le reste. Bon. J'ai des voisins charmants. Mais alors, quand on est ensemble à la poubelle et que je me trompe, que je mets le plastique dans le carton, je prends un regard qui est un regard, je suis désolé d'avoir le dire, d'une imposition morale. Je viens de violer une loi, un commandement, quoi. Il y a vraiment un problème. Et ça, vous en ferez tous, on en fait tous l'expérience régulièrement. C'est amusant de voir à quel point, du point de vue politique et éthique, l'écologie et là je n'attaque personne en particulier, j'attaque tout le monde. L'écologie fonctionne comme, terme est lourd, mais comme négation de la pensée politique et éthique moderne. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on peut dire une négation politique tout court, non pas que ce soit une négation politique tout court, mais elle est tellement inadaptée à notre contexte général de la production des valeurs et de l'autonomie, ça finit par poser un problème. Ce qui fait qu'en effet, on le voit ces jours-ci à propos des interrogations sur ce réchauffement climatique, on voit à quel point il commence à y avoir toute une partie de gens, c'est quoi ça ? Qui sont preneurs d'une thèse qui est que le réchauffement climatique n'est pas. Et ils ne le font pas par méchanceté ou quoi, ils le font parce que ça commence à devenir un peu dur à supporter, cette imposition morale qu'on subit encore de manière assez légère, mais je crois n'est pas partie pour s'arranger si ça continuait comme ça. Bon. Alors maintenant, je vais repartir de notre ligne de partage des eaux, qui était ce constat de la dédifférenciation entre la nature et l'humanité. Sur ce constat, deux vues possibles. La première, celle que je viens de vous proposer, qui est celle en fait d'un grand retour aux sources. On est dans les années 60-70, on étudie les sociétés premières, c'est un contexte de décolonisation, et tout le monde se dit, il n'y a pas que la manière européenne de vivre. Et donc, clairement, à l'échelle de l'histoire, comme à l'échelle de la géographie, les gens qui considèrent que l'homme est inclus dans le cosmos sont majoritaires, et il faut considérer la modernité de ce point de vue-là comme une sortie de piste, une fausse piste. Donc, revenons dans le droit chemin, et reconsidérons l'homme comme inclus dans le cosmos. Voilà pour la première piste. Mais après, vous voyez les conséquences que ça a en termes de politique et d'éthique. Deuxième piste. C'est une piste que nous allons penser sur le modèle de la production. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une autre manière de penser cette dédifférenciation entre l'humain et la nature. Cette seconde manière repose sur le constat suivant. C'est ce constat qu'en fait, s'il y a dédifférenciation, c'est pas qu'on se rend compte que toutes sortes de gens dans l'histoire ou dans la planète considèrent qu'ils sont inclus dans le cosmos, s'il y a des différenciations, c'est parce que nous, à la pointe de la modernité, à la pointe, nous observons que ces actions de production et de transformation, nous pouvons les agir non seulement sur le non-humain, mais aussi sur l'humain. Et c'est comme ça que travaille la dédifférenciation. C'est une différenciation que je voudrais appeler par le haut. Parce que, non pas que je veuille la comparer, axiologiquement à l'autre, mais par le haut dans le sens où elle se situe à la pointe avancée de la trajectoire moderne. C'est parce que la perspective de la production, qui est une perspective de transformation, pour dire les choses simplement, c'est approfondi, c'est généralisé, que nous en sommes arrivés un beau jour à nous dire, mais alors, écoutez, si on met des pacemakers, si on fait des grèves de cœur, si on peut faire de la manipulation génétique, qu'est-ce qui nous différencie du reste ? Pas grand-chose. Ça, c'est la deuxième piste vers la compréhension de la dédifférenciation. Et comme vous voyez, elle repose sur un approfondissement de la perspective de la production que je place pour ma part comme le changement qui nous permet de penser, vraiment dans la plus grande abstraction philosophique, qui nous permet de penser ce que c'est que la modernité. La modernité, c'est ce basculement dont il conviendra d'expliquer la généalogie, travail que j'ai tenté de faire par ailleurs, mais ce basculement vers une perspective globale de valorisation où nous produisons, en économie et ailleurs. Bon, une fois qu'on se laisse convaincre qu'en fait cette dédifférenciation entre l'humain et la nature fonctionne à coup d'avancée de la production, alors on jette du coup sur elle un regard profondément différent. Parce que du coup, s'il y a jonction entre la nature et l'humain, c'est pas par englobement de l'humain dans la nature. Mais c'est l'inverse. Les gens là de l'écologie disent qu'il faut rompre avec cette perspective morbide de Descartes, de l'homme comme maître et possesseur de la nature. Et du coup, ils veulent se réinclure dans la nature. Mais si on regarde bien ce qui s'est vraiment passé, c'est à force de maîtriser toujours mieux et de posséder toujours mieux la nature, et la nôtre aussi, celle de l'espèce humaine, qu'on en est arrivé à s'engager dans cette dédifférenciation entre les deux. Autrement dit, je crois qu'on gagnerait à penser la dédifférenciation entre la nature et l'humanité, non pas comme un reversement du jeu moderne, mais comme son approfondissement comme la suite de sa trajectoire. Je crois que la dédifférenciation entre l'humain et la nature, c'est comme le stade ultime de la maîtrise et de la possession de la nature. C'est parce que nous possédons et nous maîtrisons de mieux en mieux la nature, y compris la nôtre, celle de l'espèce humaine, que nous en arrivons à ne plus voir la différence entre l'humain et le non-humain. C'est pourquoi je crois que l'expression de Jürgen Habermas de « nature humaine » est une expression extrêmement parlante. Et finalement, elle vient mettre ensemble des choses que la modernité s'est habituée à tenir à distance. Et une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on dit nature humaine, on se rend compte qu'en réalité, bah oui, il y a une nature humaine, il y a une nature non humaine. Enfin bon, au total, c'est à peu près la même chose. Bon. Donc, si on suit cette ligne, on se rend compte que la dédifférenciation, elle s'effectue à force d'approfondissement de la logique de la trajectoire moderne, qui est celle de la production. Transformation, l'idée de production, je ne voudrais pas rentrer dans un schéma trop simple, je dirais oui, ça s'approfondit, comme ça, ligne directe, ligne droite, non, on n'est pas dans une philosophie de l'histoire, tout ça n'est pas écrit. En tout cas, si on reconstitue les épisodes depuis un siècle, on voit bien que ça s'approfondit. Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, du coup, les perspectives politiques et éthiques ouvertes ne sont plus du tout les mêmes. Parce que, quand on considère que la jonction est faite par inclusion de l'humanité dans la nature, ben alors, la nature est aux commandes, et en effet, il faut essayer d'y trouver ses premiers commandements. Donc, c'est l'espèce. C'est ce que dit Jonas. Mais à l'inverse, quand on prend conscience qu'en fait, cette dédifférenciation s'est faite par une inclusion de plus en plus forte de la nature dans l'humanité jusqu'à produire cette nature humaine, alors on se rend compte que la loi morale, là, il ne faut pas la placer sous le signe du devoir. Pour dire les choses aussi simplement et nettement que possible, si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que la dédifférenciation entre l'humain et la nature a eu lieu à coup de production, en fonction d'un approfondissement de la production, alors nous ne pourrons lui trouver une réponse éthique et politique qu'en assumant toujours plus ce mode de valorisation qui est la production de nos valeurs. Autrement dit, cette jonction entre l'humain et la nature appelle de notre part, du point de vue éthique, non un recours à une loi morale qui nous dominerait, mais une pensée toujours plus profonde de cette situation étonnante dans laquelle nous sommes et qui consiste à assumer notre autonomie, à assumer le fait de produire nos valeurs. Pour le faire comprendre en des termes peut-être plus clairs, je crois, commettre un forfait intellectuel devant vous. Tu effaceras ça. Hein. C'est extraterritorial. Qui consiste en fait à reconsidérer, au final, et pourquoi pas, le terme cher à Hans Jonas, responsabilité, en montrant en fait comment il est possible de penser ce terme et ce concept d'une toute autre manière. Disons les choses simplement. Pour Jonas, la responsabilité, comme pour nous tous, c'est répondre de ses actes. C'est ça la responsabilité. La question c'est répondre de quoi ? Très bien. Mais devant qui ? Une fois que l'homme s'est trouvé dans la perspective écologique réinclus dans un cosmos, ben on répond de nos actes à qui ? À quel autre ? Pour parler en philosophe. Ben cet autre, c'est un autre avec un A majuscule. Parce que c'est un autre qui nous domine, c'est un autre un peu transcendant, qu'on peut appeler Gaïa quand on est dans le New Age, qu'on peut appeler Home quand on est Artus Bertrand, qu'on peut appeler la planète, quand on est nous tous, c'est le terme le plus classique, ou qu'on peut aussi, et ça apparaît dans la philosophie de Jonas, appeler Dieu. Dans un petit texte qui s'appelle « Le concept de Dieu après Auschwitz », Jonas montre à quel point le Dieu auquel il croit est un Dieu de la faiblesse, mais de la bonté. Et comme c'est un Dieu de la faiblesse, il ne peut pas intervenir dans notre histoire, et la seule manière que nous ayons de nous comporter dignement à son égard, d'être responsable à son égard, et à chaque fois que nous entreprenons quelque chose, de répondre de nos actes devant cette autre majuscule. Ce que je veux dire par là, c'est que la perspective de la responsabilité selon Hans Jonas et selon l'écologie en général rejoint toujours, par des chemins plus ou moins clairs ou plus ou moins détournés, la perspective de la responsabilité, certes, mais de la responsabilité devant un autre avec un A majuscule. Un autre qui nous précède, dont nous procédons, qui nous domine. Que ce soit Dieu, la planète, ou ce que vous voudrez. À présent, dans la perspective que je soutiens pour ma part, je dis, si jamais on est dans cette dédifférenciation-là, c'est parce qu'on a approfondi la production. On voit maintenant qu'on peut produire tout, même la nature humaine. Très bien. Et je dis ensuite, nous devons assumer le fait que c'est donc en plein dans notre contexte moderne de production des valeurs, et la réponse éthique et politique que nous devons apporter à ça, c'est une réponse placée sous le signe de la production de nos valeurs, sous le signe de l'autonomie. Mais on peut appeler ça aussi la responsabilité. Et vous allez voir que c'est tout autre chose. Disons les choses simplement. La découverte, ou l'acceptation, et c'est marrant parce que Pierre Nora, dans son hommage à Lévi-Strauss il y a un mois dans la revue Le Débat, disait cela, il disait peut-être la seule véritable découverte intellectuelle du XXe siècle, c'est la découverte de l'autre, de cet autre qui est toujours en nous. Oui, comment a-t-on fait cette découverte de l'autre en nous au XXe siècle? Je crois qu'il est permis d'affirmer qu'on l'a faite parce que quand on produit, on ne crée pas. La production n'est pas une création ex nihilo. La production part d'un input, elle va vers un output. Quelle différence entre l'input et l'output? C'est que l'output est la transformation de l'input. Autrement dit, l'output, il est autre chose que l'input. Autre chose. C'est-à-dire que la production, et avec elle toute cette découverte que nous avons faite sur nous-mêmes, en tant qu'individus et sur nos sociétés, en tant que groupe au cours du XXe siècle, cette découverte de l'altérité intégrée, de l'altérité en nous, est une altérité qui, à mon avis, s'appuie à nouveau sur cet environnement général qu'est la production, mais qui évidemment fait signe vers une altérité qui n'a rien à voir avec l'altérité du grand autre de l'écologie ou de Jonas, sur lequel je ne veux pas m'acharner, parce que je l'adore par ailleurs, mais vous voyez ce que je veux dire. L'altérité, il y a plusieurs manières de la considérer. Le grand autre, et puis cet autre qui est au sein de nous. Exactement comme ce soir, je prononce une conférence devant vous, je me transforme ce faisant, parce que je prononce des mots que je n'ai jamais prononcés, et je sais bien que, voilà, même à l'échelle de cette soirée, il y a un autre moi-même qui était là dans sa petite voiture à 20h, et il y a un autre moi-même qui sera là demain matin. Ça peut sembler rien du tout, mais il y a cet autre en moi, et je le sais. Alors là, c'est petit, mais à l'échelle de quelques années, c'est frappant. Pour liser un texte que vous avez écrit il y a des années, enfin, vous l'avez découvert sans doute en vous, vous l'avez découvert, et on le découvre de mille manières. Et on le découvre aussi à l'échelle de notre histoire, puisque une des caractéristiques de l'histoire du XXe siècle, ou plus exactement de la manière dont nous interprétons cette histoire au XXe siècle, est de découvrir qu'il nous est arrivé, dans certains moments, d'être d'autres nous-mêmes. C'est le fait frappant, par exemple, de l'interprétation historique de l'épisode de la Deuxième Guerre mondiale par la France. Très douloureuse histoire. Et découvert que Vichy n'était pas autre chose que la France, mais c'était la France. Une autre France, c'était la France. Acceptation qui a été faite il y a déjà 10 ou 15 ans, mais qui signifie beaucoup du point de vue de cette intégration de l'autre en nous. Et c'est ça la production de l'histoire, et c'est ça la production de nos vies aussi. La permanence d'un autre qui nous accompagne tout le temps. Bien. Et donc, si je fais ce développement sur l'altérité, pour le différencier du grand autre, c'est pour essayer de vous convaincre qu'il y aurait une autre manière de penser la responsabilité. En la pensant non pas comme la responsabilité à l'égard du grand autre, d'un autre majuscule, mais en la pensant en pensant cette responsabilité et cette réponse que nous devons toujours faire lorsque nous entreprenons un acte, lorsque nous produisons, lorsque nous engageons une transformation, eh bien, nous pourrions trouver une mesure à cette transformation en considérant l'autre au nom duquel nous entreprenons cette transformation de nous-mêmes, du monde, de nos sociétés. Et cet autre-là n'est pas un autre majuscule. Cet autre se situe dans une profonde continuité historique avec nous. Que ce soit les générations futures, elles sont dans une continuité historique avec nos sociétés. Que ce soit nous-mêmes dans 20 ou 30 ans. Et que ce soit moi, lorsque un jour je décide de commettre une action et que je me pose la question de savoir si elle est bonne ou mauvaise et que je ne vais trouver évidemment aucune loi morale pour me le dire et que la seule manière de savoir si cette action a un sens ou pas va être de savoir si elle prend un sens dans mon histoire par considération de tous ces autres que j'ai déjà été et de cet autre que je projette d'être à l'issue de la transformation qu'aura opéré l'action en question. Je termine donc par quelques considérations. Mais pour l'essentiel, les choses sont dites. Il me semble que l'écologie politique des années 60, 70, s'est développé sur ce qui apparaît rétrospectivement. Ce serait facile de dire l'inverse. Rétrospectivement, ce qui apparaît comme un malentendu. La jonction entre l'humanité et la nature ne s'est pas faite à coup de ressouvenir d'une inclusion antérieure. Elle s'est faite sous les coups de butoir des avancées de la production et d'une perspective de la production de plus en plus environnante dans nos vies. Du coup, la perspective éthique et politique contemporaine de l'écologie, qui consiste à trouver du devoir, aussi bien dans les poubelles des immeubles parisiens qu'à l'échelle globale, cette perspective-là est une perspective qui vient nier la production des valeurs qui a été, je crois, la grande novation des temps modernes. Elle ne représente donc en aucun cas une réponse, et à un moment donné, ça va chauffer, parce que les tensions sont considérables. On est en train de se mettre des impositions morales, là où nous n'avons, depuis 3 ou 4 siècles, cru qu'à l'autonomie. Ça ne va pas marcher longtemps. A l'inverse, tout en prenant extrêmement au sérieux les problèmes de réchauffement climatique, etc. Eh bien, il y a une autre possibilité de penser l'éthique et la politique du temps contemporain, qui repose sur une autre manière de penser la jonction, et cette jonction, cette nouvelle pensée de la jonction, repose sur ce concept de production que j'ai essayé de commencer à penser avec vous. Et une fois qu'on a pensé ça, et qu'on a compris qu'en fait, la production de valeur, ça veut dire beaucoup plus que l'économie. C'est notre attitude générale à l'égard de notre action pratique. Une fois qu'on a dit ça, on comprend que la réponse éthique et politique que nous devons formuler à l'égard de cette jonction de la nature humaine, de la nature plutôt, et de l'humanité, mais aussi de la disparition de cet état final dont je parlais un peu plus tôt, les réponses que nous devons apporter doivent être placées sous le signe de cette production des valeurs que nous ne pouvons pas nier. Elle est là, elle reviendra. On ne peut pas s'en séparer. Et étrangement, et très paradoxalement, le terme de responsabilité est possiblement le bon. Simplement, il faut savoir devant quel autre on répond. Et de ce point de vue-là, l'autre de Hans Jonas n'est pas du tout l'autre que je viens de vous présenter à l'instant. Mais l'autre dont je parle moi, il est éminemment approché par cette incorporation psychologique intime qui a lieu au XXe siècle de cette idée que produisant notre histoire, nous nous transformons et nous devenons autres à nous-mêmes. Dernier point, et très vite. 3 choses. Premier point. Il est amusant de voir que les plus décidés des tenants de l'écologie politique sont les gens qui sont persuadés que c'est l'humanité qui est en train de réchauffer la planète en ce moment. On est d'accord. Alors de 2 choses l'une. Soit on considère qu'on est inclus dans le cosmos. Dans ce cas-là, il est transcendant, il nous domine, etc. Soit on considère qu'on a la puissance pour modifier des conditions essentielles du cosmos. Dans ce cas-là, le cosmos ne peut pas nous dominer. Là, il y a une contradiction, hein. C'est clair et net. Deuxième chose. Je voudrais montrer comment le développement durable, mettons, et plus exactement la perspective d'une planète à sauver, joue objectivement le jeu du néolibéralisme, pour prendre le terme employé, de la dérégulation, du néolibéralisme, ça. Pourquoi, comment ? La croissance, une fois qu'elle a eu perdu, dans les années 50, 60, 70, la perspective d'un état final, que lui restait-il ? Non pas la fin, pour justifier les moyens, mais l'efficience des moyens. La dissipation de la faim fait qu'on se concentre sur les moyens et qu'on essaie d'être de plus en plus efficace, de plus en plus rentable, de plus en plus productif. Pour dire les choses simplement, avant, vous vous concentrez sur la faim, donc quand vous avez une entreprise, vous visez un bénéfice. Mais ce qu'on voit ces jours-ci, on le voit encore dans les raffineries totales qui m'ont posé quelques problèmes tout à l'heure, panne sèche, on voit qu'en fait, une entreprise peut faire du profit, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Les syndicalistes ne le comprennent pas. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le ratio. C'est l'efficience. La productivité, la rentabilité. Vous êtes d'accord? Vous observez. Et c'est ça qu'englobe cette tendance décennale de la financiarisation de l'économie. Il y a financiarisation de l'économie, parce que l'évanouissement de la perspective d'un état final de l'histoire ou de l'économie implique, très rigoureusement, très logiquement, une concentration sur l'efficience des moyens. Avant, la fin justifie les moyens. Maintenant, il n'y a plus que des moyens, donc on doit trouver notre compte dans un raisonnement sur les moyens. C'est le ratio, c'est la rentabilité, c'est la productivité, c'est l'efficience. Bien. Ça, c'est pour ce qu'on pourrait appeler la partie néolibérale, etc. Parce que c'est clair que le néolibéralisme, c'est quand même quelque chose qui se concentre là sur ces ratios. Maintenant, vous prenez le développement durable et vous prenez ce souci de la planète. Il faut la sauver, la planète. Mais s'il faut la sauver, la planète, c'est qu'on a des problèmes d'énergie. Ça chauffe. Comment faire ? On n'a qu'une seule solution. Le vrai titre du rapport du Club de Rome dans les années 60, c'était « The limits of growth ». Pas la fin de la croissance, les limites de la croissance. Autrement dit, comme on est limité, il faut qu'on soit économe. Il faut qu'on soit donc extrêmement efficace, efficient, avec l'énergie qu'on a, etc. Ce qui fait qu'on va s'entreprendre de construire des bâtiments à haute qualité environnementale, d'avoir des voitures qui roulent avec le moins de production de CO2, et tout ça, évidemment, est toujours mesuré en ratio. C'est CO2 / kilomètre. C'est en bâtiment en qualité environnementale, c'est production de CO2 par mètre carré, etc. On est donc là aussi, on retrouve là aussi la même logique du ratio, de l'efficacité, de l'efficience. C'est la même. Et c'est pas par hasard, c'est pas une jonction par hasard. C'est que dans un cas, comme dans l'autre, en réalité, il y a un problème axiologique, il y a un problème de valeur, c'est-à-dire on ne sait pas au nom de quoi on fait ça. Je veux être plus précis et puis j'arrêterai là-dessus parce que je vois vraiment qu'il est près de 9h30. Dans le cas de l'écologie politique, le souci de la planète, qui est un souci de transcendance, d'un grand autre, est un souci éthique et politique qui n'est absolument pas en consonance avec notre modernité. Autrement dit, c'est une volonté de régulation, une volonté de gouvernement, mais une volonté de gouvernement impossible, vouée à l'échec, tout simplement parce qu'elle viole certaines des prémices fondamentales de notre rapport au monde. Donc c'est une régulation qui, du coup, est extrêmement ambitieuse, qui ne marche pas, et qui se résume, du coup, dans les faits, à un raisonnement sur l'efficience. A l'inverse, le néolibéralisme, qui n'est pas un écologiste, pour le coup, lui assume parfois, très nettement, l'idée d'une dérégulation. Et donc, se concentre sur efficience, productivité, rentabilité. Mais ce que je veux essayer de dire à cet instant-là, c'est que, de fait, une régulation condamnée à l'échec a exactement les mêmes effets que la volonté de ne pas réguler. Ça revient au même. Et ça, c'est grave pour l'écologie politique. Parce qu'on est en train, collectivement, à l'échelle de pays entiers, de s'engager quand même dans cette perspective-là. Donc il ne faut pas s'étonner que si jamais on a un peu de mal à sortir de cette crise financière, en fait une crise de la financiarisation de l'économie, d'un souci grandissant des ratios, de l'efficacité, etc. C'est qu'en réalité, on essaie en ce moment de dire on va sortir de la crise financière par la croissance verte. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'en fait, c'est remettre encore un coût de rentabilité, de ratio, etc. Bon, je ne vais pas plus loin parce que ça pourrait faire l'objet d'un long raisonnement. Mais je voulais vous faire comprendre, pour vous convaincre qu'en réalité, cette notion de responsabilité sur laquelle je terminais ma propre proposition, on gagnerait peut-être en effet à la creuser un peu parce qu'elle nous ferait quand même sortir de certaines drôles de situations dans lesquelles on est. Et c'est pourquoi en préparant cet exposé avec Martin, j'imaginais que plutôt que de parler de développement durable, de croissance soutenable, de croissance verte, nous gagnerions à appeler cette perspective historique que nous appelons de nos voeux la croissance responsable. Alors évidemment, ça va susciter beaucoup de malentendus. Mais d'entrée de jeu, pour finir ce propos, comprenons pourquoi ça change tout. Quand on dit croissance durable, croissance soutenable, on est dans une perspective parfaitement circulaire. La croissance vise sa durabilité, vise sa durée. On est donc à nouveau dans un raisonnement sur les moyens et les forces de production favorisent les forces de production qui favorisent les forces de production. Donc là, vraiment, en termes éthiques et politiques, aucune régulation, aucune mesure. On est donc dans une impasse du point de vue politique et axiologique. A l'inverse, si on dit croissance responsable, alors ça change tout, parce que la croissance doit répondre. Ces productions que nous engageons, nous devons répondre, et vis-à-vis de qui ? Et vis-à-vis de nous-mêmes. Vis-à-vis de nous-mêmes et de ces autres que nous sommes à chaque fois que nous entreprenons une action de production. Évidemment, tout ça va mériter d'être approfondi. Mais on voit bien d'entrée de jeu que cette chose-là a pour elle la vertu d'être raccord avec les prémices de notre positionnement moderne quant à la production des valeurs, à la fois sur le versant économique et aussi sur le versant éthique et sur le versant politique.